En tout cas, je voudrais étudier avec vous un texte que vous avez peut-être déjà abordé dans certaines occasions. Il s'agit d'un texte talmudique qui parle du noachisme. Il s'agit dans le traité de Baba Kama à la page 38a. Lamedret Amoud Aleph, pour ceux que ça intéresse, ils connaissent le Talmud. C'est un texte assez curieux, mais qui a de grosses conséquences sur notre sujet. Il s'agit d'un texte dans lequel il est dit qu'à un moment de l'histoire, Dieu a levé les lois noachides, a aboli les lois noachides. C'est basé sur un verset. Amad vaïmoded eretz, Dieu s'est levé pour mesurer la terre. Ra'a, il a vu. Le texte ne dit pas ce qu'il a vu. Vayater goyim, et autorisa les nations. Alors, une des interprétations proposées par le Talmud, c'est quoi? Il a autorisé les nations. Eh bien, il a autorisé les nations à ne plus accomplir les sept lois qu'il. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il a vu que les nations ne les accomplissaient pas. Alors, évidemment, ça a l'air absolument illogique, ce texte. D'ailleurs, le Talmud lui-même s'étonne de cette tradition. Il dit, mais enfin, comment se fait-il que celui qui pêche est récompensé de ce qu'on lève l'interdiction? Alors, dans ce cas-là, on peut faire n'importe quoi, et tout est autorisé. Alors, réponse du Talmud, mais non, c'est pas que c'est vraiment autorisé, mais c'est que les nations ont cessé d'être récompensées lorsqu'ils les accomplissent, même s'ils le font. À nouveau, nouvel étonnement. D'ailleurs, vous avez remarqué que je vous ai dispensé de l'interrogation parce que j'ai vu que vous avez très bien écouté la dernière fois et j'espère que cette fois-ci vous allez faire la même chose. Et donc, après la première interrogation du Talmud, enfin, comment est-ce qu'on peut récompenser le pécheur? Après, le Talmud dit, oui, mais ils ne sont pas récompensés. Ils ont le devoir, les nations ont le devoir d'accomplir les commandements de mais les nations ne sont pas récompensées lorsqu'elles le font.
À nouveau,
nouvelle interrogation du Talmud. Comment ne pas récompenser celui
qui agit bien?
À nouveau, donc, l'interrogation est dans l'autre sens. Évidemment, le Talmud arrive à la conclusion que non, pas du tout. Ils sont récompensés. Ils sont récompensés, mais n'ont pas la même récompense que celui qui fait quelque chose parce qu'on lui a ordonné, mais seulement comme quelqu'un qui fait quelque chose qu'on ne lui a pas ordonné de faire. Alors, ça se base sur un enseignement antérieur du Talmud, qui est qu'il est plus grand de faire quelque chose parce qu'on en a reçu l'ordre et de l'accomplir, que de le faire volontairement sans qu'on en ait reçu l'ordre. Ce qui a l'air tout à fait contraire au sens commun. Dans le sens commun, on se dit que quand quelque chose est fait parce qu'on le fait volontairement sans en avoir reçu l'ordre, on est plus méritant que si on le fait parce qu'on en a reçu l'ordre. Alors, interprétation des Tosafistes, les élèves de Rashi, au XIIe, XIIIe siècle, qui répondent non, pas du tout. Parce que quand on fait quelque chose parce qu'on a reçu l'ordre, on a un désir secret de se révolter. C'est-à-dire, on refuse de faire quelque chose quand on en a reçu l'ordre. C'est-à-dire, il y a une tendance naturelle à remettre en question l'autorité. Ce qui explique ce qu'on appelle la révolte des générations, les enfants qui refusent de faire ce que disent les parents, etc. Et donc, il y a un plus grand mérite à avoir reçu un ordre que de ne pas l'avoir reçu. Et c'est comme ça que s'achève cette page du Talmud. Alors, qu'est-ce que le Talmud veut nous dire? Et c'est à moi donc de vous donner quelques éclaircissements là-dessus. Pour ça, je vais devoir me référer à une tradition extérieure au judaïsme que vous connaissez probablement, le christianisme. Vous savez que dans les origines du christianisme, il y a eu cette idée que la loi est une malédiction. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les évangiles, dans les épîtres de Paul, le fondateur du christianisme, qui est que le fait que quelque chose soit un commandement est une malédiction. Et plus il y a de commandements, plus la malédiction est grande. Et l'idée que le Christ
nous a sauvés de la malédiction de la loi. C'est écrit en toutes lettres dans Matthieu. Et ça veut dire quoi? Eh bien, c'est très simple. Si la condition de ma relation envers Dieu, c'est l'accomplissement d'une mitzvah, l'accomplissement d'un commandement, alors c'est très grave. Parce que moi qui suis un homme, je vais certainement un jour ou l'autre pécher. Je vais certainement être en infraction. Et donc, le fait d'avoir posé la mitzvah, le commandement, comme condition de la relation favorable de Dieu envers moi, pose un problème. C'est inévitablement que je vais un jour être déchu de cette relation. Et on peut dire même que donc la mitzvah est un piège. Et donc ce qu'a déclaré Paul, c'est que les commandements étaient abolis. Maintenant, si vous avez 613 commandements, vous avez donc 613 pièges. Donc c'est terrible d'avoir reçu les mitzvot. On pourrait même se demander si Dieu n'a pas donné les commandements à son peuple parce qu'il ne les aime pas. Et donc 613 commandements sont 613 occasions de péché. Et donc, ce que le christianisme a proposé, c'est de remplacer la relation à travers les mitzvot par la relation à travers la foi. La foi étant quelque chose de plus facile à élaborer, prétend le christianisme. Et donc, on est jugé par sa foi et pas par ses actes. Ce ne sont pas les actes qui sauvent, c'est la foi qui sauve. Je suppose que ça résonne dans votre bagage intellectuel comme quelque chose de connu. Ce qui est surprenant, c'est que dans l'une des épîtres de Paul, on voit que après avoir déclaré que les mitzvot étaient abolis, la première communauté chrétienne, celle d'Antioche, si je ne me trompe, a commencé à vivre une vie de libertinisme. Et Paul leur envoie une lettre dans laquelle il leur dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est ces histoires ?» Et les chrétiens lui répondent « Mais enfin, c'est toi qui as dit qu'on pouvait se comporter comme ça, puisque tu as dit que les mitzvot, la loi a été abolie, donc tout est permis. » Et il leur répond « Tout est permis, mais tout n'est pas convenable. » C'est-à-dire, il y a une morale, la morale chrétienne. La morale chrétienne, elle existe, mais ce n'est pas le comportement moral qui est la condition de l'amour de Dieu pour moi, mais c'est la foi. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire des bêtises. Ça veut dire qu'on a le droit d'être immoral. Il faut donc continuer à accomplir les commandements sans que ce soit des commandements. Et c'est la foi qui sera le canal qui va nous relier avec Dieu. Eh bien, c'est exactement ce que dit ce passage curieux du Talmud que je vous ai lu. C'est que les nations veulent accomplir les commandements noachides, ils veulent les accomplir en tant que morale générale, comme morale naturelle, mais non pas comme commandement. C'est-à-dire, le fait que ce soit un commandement pose un problème, parce que ça implique que ma relation envers Dieu dépend du commandement. Qu'est-ce que répond le judaïsme à cet argument, en fait? L'argument a l'air très vrai, très juste. S'il y a 613 commandements, je suis donc susceptible de 613 sortes de péchés. S'il n'y a que 200 commandements, je ne pourrai faire que 200 péchés. S'il n'y a pas de commandement du tout, je n'en ferai pas du tout. Si le seul commandement, c'est la foi, alors à la limite, le seul péché que je pourrais faire, c'est de ne pas avoir la foi. Et donc, il semblerait que la critique paulinienne est bien fondée. Qu'est-ce que répond la tradition juive à cet argument? Eh bien, la réponse est très simple, c'est que même si on pêche, il y a ce qu'on appelle la teshuvah. La teshuvah, le repentir. Et le repentir, d'après la tradition d'Israël, est efficace. Ça marche. Ça marche, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, à partir du moment où je fais cette transformation dans ma personne, de la volonté, je me repens d'avoir fait le mal et je décide de faire le bien, eh bien, les compteurs sont remis à zéro. C'est un des 613 commandements de la Torah, le commandement de la Teshuvah. Alors, qu'est-ce que répondrait le christianisme à cet argument? Eh bien, tout simplement que la teshuva n'est pas vraiment efficace. Elle n'efface pas vraiment, elle ne lave pas vraiment la faute. C'est la raison pour laquelle le christianisme a imaginé toute une stratégie d'expiation à travers un mythe. Il a fallu pour cela un mythe expiatoire, un peu païen d'ailleurs, un peu beaucoup même, qui permet d'échapper à la damnation éternelle, à la perdition de l'âme. Dans la tradition juive, on ne s'est jamais préoccupé vraiment de savoir si l'âme allait être sauvée ou non, parce qu'on suppose que, a priori, l'âme est pure. Et que c'est seulement si on fait de très grosses gaffes que l'on peut perdre sa béatitude, mais a priori, on y appartient. Donc le problème n'est pas de savoir si on a sa part au monde à venir, si on a sa part au paradis ou pas, parce qu'on peut dire que d'emblée, on suppose que les hommes le méritent, le paradis en question. Et donc ce qui nous préoccupe, c'est plutôt de réussir la vie d'ici-bas, plutôt que la vie d'en haut. La vie d'en haut, c'est déjà assuré. Mais en tout cas, même si on a fait des péchés très très graves, la teshuva est efficace, elle permet à nouveau de rétablir la relation rompue avec le Créateur. En quoi tout ce que je vous dis concerne le noachisme? Eh bien, c'est très simple. Étant donné que l'humanité a été, d'une certaine manière, déchue de son alliance originelle, l'alliance originelle qui était ce qu'on appelle les sept commandements noachiques, puisque l'humanité n'en veut pas en tant que commandement, alors il faut faire un processus de réactualisation de l'alliance noachique. Et c'est ce qui se fait lorsque un membre des nations décide d'accepter les sept commandements en tant que commandement. C'est pour ça que la déclaration d'acceptation du noachisme se fait en présence d'un quorum quasi-tribunalien de trois rabbins. Devant trois rabbins, on fait sa déclaration officielle et on s'engage à nouveau à retrouver les lois noachiques en tant que mitzvah. C'est-à-dire ce que fait la cérémonie du Beit Din, elle ne convertit pas au judaïsme évidemment, mais elle permet de rétablir la relation de Metsuveh Ve'Ose, de celui qui a reçu un commandement et qui l'accomplit. Effectivement, le résultat, bien que pratiquement il a l'air le même que celui qui fait de la morale naturelle, en fait c'est un résultat tout à fait différent. Parce que lorsque je ne suis pas sous le coup d'une mitzvah, j'accomplis la morale naturelle pour des raisons de morale naturelle, ce qui est très noble. C'est très bien, il faut être un homme, il faut se comporter moralement. Mais quand je me comporte simplement moralement, eh bien, j'acquiers une perfection humaine. Mais je n'ai pas de relation avec l'infini. Par contre, si ce que j'accomplis, je le fais parce que c'est une mitzvah, alors j'entre immédiatement en contact avec l'infini. C'est-à-dire que ça donne une dimension spirituelle absolument inégalable à la vie de l'homme. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous proposons à ceux qui sont intéressés, justement, la cérémonie du Beit Din, qui fait que l'on change de statut. Alors que, d'habitude, on pense qu'on peut changer de statut en passant l'identité non-juive à l'identité juive. En fait, il y a une autre transformation qui peut se faire, c'est le passage de l'identité goy à l'identité ben-noir. Le Ben Noir a un statut particulier dans la loi juive. Parfois, le Ben Noir bénéficie également du statut du Ger Toshav. Mais le Ger Toshav, c'est-à-dire l'étranger résident, c'est un statut propre à l'étranger qui vit sur la terre d'Israël. Mais étant donné que la terre d'Israël n'est pas le monde entier, alors pour le reste de l'humanité, c'est ce qu'on appelle être Ben Noir. Le Ben Noir, je voudrais vous citer un enseignement de Maïmonide, puisqu'on m'a posé la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'on a le droit de faire une nouvelle religion. Il y aurait une interdiction de faire une nouvelle religion d'après le texte de Maïmonide. Et là, je voudrais vous citer le texte de Maïmonide, de mémoire, mais à la manière dont il a été lu par les plus grands des décisionnaires de la loi juive. Ce que je vous dis là est une des opinions possibles, c'est celle que nous relevons dans notre centre à nous, Brit Olam, c'est la suivante. Maïmonide nous dit qu'il est interdit à un non-juif, un goy, de respecter le Shabbat. Ni d'ailleurs d'étudier la Torah, ni d'innover des nouvelles festivités, ni d'accomplir aucun autre commandement que les 7 commandements noachides. Ça voudrait dire que le non-juif n'aurait le droit d'avoir une activité exclusivement négative dans sa relation envers Dieu, et sans plus. Certains se servent de ce texte de Maïmonide pour dire, alors vos histoires de noachisme, une vie religieuse, tout ça, c'est du baratin, puisque Maïmonide dit que c'est interdit. Simplement, c'est une erreur de lecture, malencontreuse évidemment, et là je voudrais entrer un peu dans le détail. Dans le passage juste après cette interdiction de Maïmonide d'innover une nouvelle loi, d'accomplir le Shabbat, d'étudier la Torah et tout le reste, juste après, quelques lignes plus tard, Maïmonide nous dit, si un ben noir désire accomplir un des commandements de la Torah autre que les 7, il peut le faire de la manière même kahil chata, c'est-à-dire selon les règles de la loi juive. Alors comment comprendre cette contradiction? D'une part, Maïmonide dit que c'est interdit, d'autre part, il dit que c'est permis. Alors, il faut simplement savoir de qui parle Maïmonide. Dans le premier passage, il parle du goy. Dans le deuxième passage, il parle du ben noir. Le ben noir étant celui qui a déjà adhéré aux 7 commandements, qui en a fait la déclaration solennelle, et qui se comporte en fonction de ces 7 commandements, alors, à partir de ce moment-là, les portes lui sont ouvertes pour élargir le champ de sa vie religieuse à de nombreux commandements du judaïsme. Pas l'ensemble de tous les commandements, si quelqu'un veut accomplir tous les 613 commandements, il doit pour cela se convertir au judaïsme, mais si il s'agit d'élargir le champ de son judaïsme, alors de son adhésion, alors il peut s'inspirer de la plupart des commandements du judaïsme. Par exemple, le Shabbat. Ce que je vous cite ici, c'est l'opinion d'un des grands maîtres du XVIIIe siècle, le Chatam Sofer, et son interprétation est celle du texte de Maïmonide. Il y a d'autres opinions dans la Halakha, donc si vous entendez des rabbins vous dire « Vous n'avez pas le droit de faire le Shabbat », ne vous étonnez pas, mais nous suivons une autre opinion. Il y a d'ailleurs des commandements, au-delà des 7 commandements noachides, qui engagent tout le monde, même s'ils ne font pas partie de la liste. Par exemple, le devoir de la charité. Le Talmud est explicite là-dessus, il dit « La charité est un devoir des noachides, ils doivent l'accomplir. » De même, le Talmud, quand il veut s'inspirer, quand il veut savoir comment respecter ses parents, amène pour exemple des comportements noachides réalisés par des non-juifs, comme exemple de comment il faut respecter ses parents. De manière générale, vous pouvez voir que l'humanité, avant même l'élection du peuple d'Israël, avait déjà des lois, et que ces lois étaient très élaborées. Vous connaissez certainement le code de Hammurabi, et vous avez peut-être entendu parler d'autres lois qui étaient en vigueur dans l'humanité, dans l'Antiquité, et dont nous avons l'écho, par exemple, dans le livre de Bereshit. Je me réfère, par exemple, entre autres, à la loi du Lévirat. Le Lévirat, en hébreu, Iboum, on le voit très bien dans le livre de Bereshit, était déjà en usage du temps de Yaakov avec son fils Judas, et peut-être même avant, nous avons encore d'autres témoignages de l'existence du Lévirat. Étant donné que j'emploie ici à dessein un mot rare, je suis persuadé qu'au moins la moitié du public ne comprend pas ce que c'est que le Lévirat, mais personne n'a ici l'audace de dire « mais qu'est-ce que ça veut dire le Lévirat ?» C'est tant pis pour vous, ceux qui le savent, ils ont gagné, ceux qui ne le savent pas, ben c'est tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le Lévirat. Très bien, voilà. Au moins, un jeune homme courageux. Ouais. Le Lévirat, c'est une règle du mariage qui consiste, d'après la Torah, à épouser la veuve de son frère qui est mort sans enfant. C'est-à-dire, si on a, Dieu ne plaise, un frère mort sans enfant, eh bien, le beau-frère épouse la veuve. C'est ce qu'on appelle le yiboum. Et si on veut s'en dégager, il y a la fameuse cérémonie du déchaussement, la chalitza, qui est mentionné dans le livre de Devarim. Eh bien, on voit que c'était déjà en usage du temps de Yehuda, ainsi que c'est écrit dans le livre de Bereshit. Nous avons donné un exemple de mitzvah qui était en cours chez les goyim, et que la Torah relève après, qu'elle reprend après dans la liste des 613 commandements. D'accord ? Donc nous avons différentes règles de ce genre. Et bon, ça serait un sujet d'étude, il y a des textes rabbiniques autour de ça. Certains rabbins ont essayé de faire la liste de toutes les mitzvot qui se réfèrent aux nations. On arrive à peu près 50 et même plus. D'accord ? C'est-à-dire quand on vous dit 7, 7 ça veut dire un point de départ. Mais en fait, 7, ça peut être 50, ça peut même être 100, etc. Par exemple, l'interdiction de l'idolâtrie comporte énormément de comportements. Est-ce que, par exemple, c'est quoi pratiquer l'idolâtrie, par exemple ? Alors, vous avez tout un traité du Talmud qui s'appelle le traité de Avodah Zarah qui traite de ça. Ou bien, par exemple, les relations sexuelles interdites. C'est quoi exactement ? Combien y en a-t-il ? Et de quelle manière ? Eh bien, tout ça, c'était un autre volume du Talmud aussi. Donc, toutes ces choses-là doivent être élaborées également dans une législation de Rakib qui, partiellement, dépend non pas des sages d'Israël, mais des sages des nations. Je vais vous donner, par exemple, un tout petit exemple de ça. Vous savez qu'il y a une opinion talmudique comme quoi la greffe des arbres est interdite au Béné Noir. C'est discuté, certains l'admettent, certains ne l'admettent pas. Alors maintenant, est-ce que la greffe en question, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une greffe, c'est une greffe entre deux espèces. Alors, un cédra et un citron, ça va ou ça va pas? C'est deux agrumes. Alors peut-être que ça, pour les juifs, c'est interdit. Est-ce que pour un non-juif, c'est permis? C'est dans la mesure où on admet que la greffe est interdite. Est-ce que ça fait partie des greffes interdites ou pas? Alors, d'après un de nos maîtres, le Rav Kook, ça dépend des tribunaux des goyim. C'est les tribunaux des goyim qui doivent déterminer qu'est-ce qui fait partie d'une espèce différente et qu'est-ce qui fait partie de la même espèce. Et non pas la halakha des juifs. Donc, il y a tout un travail qui doit être fait, sans parler également des relations de bon voisinage. D'après notre maître Nachmanide, le Ramban, eh bien, il y a toutes les lois de bon voisinage et de dédommagement, des dommages, etc. Tout cela fait partie de la loi Noachim. Alors, ça demande des textes de loi à n'en plus finir. Vous n'avez qu'à demander à un juriste de vos amis combien de lois il y a sur les relations entre voisins, et vous trouverez que la loi Noachim est énorme. Par exemple, une question qui m'a été posée, est-ce que moi qui je travaille dans un magasin, je suis employé et parfois je ferme le magasin 5 minutes avant l'heure finale parce qu'il n'y a plus de clients qui viennent. Est-ce que je suis coupable de vol ou pas? Très bonne question, n'est-ce pas? Cette question m'a été posée. Il y a également des mitzvot cultuelles, par exemple la prière. Il y a même éventuellement, alors j'espère que ça ne va pas vous faire trop horreur, le sacrifice. Vous savez que nous autres, les enfants d'Israël, depuis que le temple a été détruit, nous sommes dans l'incapacité de présenter des sacrifices. Et même faire un sacrifice en dehors du temple nous est interdit. Mais ce n'est pas interdit aux nations. Alors si, parmi vous, quelqu'un est intéressé à faire un sacrifice, il a le droit de le faire. Simplement, il y a des instructions précises pour le faire. Je rigole pas, il y a un bel noir, un noachide américain du nom de Roger Grattan qui récemment a fait sacrifice de pigeons à Jérusalem aux grandes dames de juifs religieux qui étaient effrayés par ça, mais en fait qui ne connaissaient pas vraiment la halakha, la règle est qu'il a tout à fait le droit de le faire. Maintenant, si ça vous inspire, je ne sais pas, d'abattre des pigeons en tant que sacrifice, je ne sais pas si c'est très esthétique, mais enfin, si quelqu'un est intéressé, ben, ça peut se faire. D'ailleurs, je vais vous révéler un petit secret entre nous. Roger Grattan m'a dit que maintenant il apprend à abattre des moutons parce qu'il veut passer maintenant aux moutons. Alors, ce que ça veut dire. Bon, maintenant, il y a cependant certaines mitzvot qui sont problématiques, telles que par exemple la mise des téphilines, des phylactères que nous mettons sur les bras et sur la tête. Certains décisionnaires qui sont d'importance disent qu'il faut réserver quelque chose aux enfants d'Israël, alors ces choses-là, ben non. Demain, vous avez un débat autour de la mezouza. Est-ce qu'il peut y avoir une mezouza noachide? À mon avis, oui, et je recommande d'ailleurs de faire une mezouza un peu différente de celle des juifs, par exemple, avec le chiffre 7, de ce qui est quand même assez beau. Il y a également l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est évidemment recommandée. On ne peut pas vraiment comprendre quelque chose si on n'étudie pas. Parce que tant qu'on n'étudie pas, on est dépendant du maître. Et là, je voudrais vous expliquer un peu la différence qu'il y a entre la synagogue et la yeshiva. Quand je vais à la synagogue, je vais pour prier, évidemment, pour lire la Torah, et également entendre les instructions de mon rabbin qui va me dire ce que je dois faire et ce que je dois penser. C'est à ça que sert la synagogue. La synagogue est une institution un peu passive. On est là dans la dépendance par rapport au maître. Tandis qu'il y a une autre institution qu'on appelle la yeshiva, c'est-à-dire la maison d'études. Et dans la maison d'études, on vient pour quoi faire ? Pour étudier. Et étudier, ça veut dire rechercher la vérité. C'est la raison pour laquelle la halakha nous dit que si on a une objection contre l'enseignement de son maître, eh bien, non seulement on a le devoir de dire à son maître qu'on a une objection, on a également le devoir de ne pas suivre l'enseignement de son maître. C'est-à-dire, si on a réfuté l'enseignement de son maître, parce qu'on a la preuve que le maître s'est trompé, eh bien, il n'y a pas d'autorité du maître dans ce cas-là. Il est même interdit, le Gaon de Vilna, de suivre l'enseignement de son maître, si on a la preuve qu'il s'est trompé. Il y a un seul petit problème, c'est quoi une preuve ? Comment est-ce que je peux prouver que mon maître s'est trompé ? Alors, ça s'apprend aussi. On apprend comment apprendre. Mais tout ça est très important, ça peut se faire dans un cercle d'études. C'est pour ça que ma recommandation serait, pour tous ceux qui sont intéressés par la Torah, c'est d'avoir des réunions de temps en temps, hebdomadaires c'est encore très bien, ça peut être mensuel, ça peut être semestriel, des rencontres d'études autour de sujets de la Torah, peut-être modérées par un rabbin, peut-être amener un conférencier, peut-être étudier sur texte. Mais en tout cas, il est indispensable d'avoir un contact direct avec l'étude. Tant que le contact n'est pas avec l'étude, ça reste du mythe. La religion devient de la magie. Et il faut éviter la dimension. Il faut éviter l'appréhension magique de la Torah. La Torah n'est pas un mythe. Elle n'est pas faite pour rester un mystère. La Torah est faite pour être claire. Et il n'y a rien de clair si on n'est pas capable de poser des questions et d'essayer d'y répondre. Donc, il serait intéressant que des bénévoles noirs se réunissent pour des cadres d'études, éventuellement même des prières en commun. Vous savez ce que c'est que le Shabbat chez les Juifs ? C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un jour où on passe son temps à manger, à boire, à se reposer et à prier. Et également à étudier. C'est-à-dire, il y a une journée tout entière de la semaine qui est consacrée à la joie. Et cette joie est liée à l'étude. Et ça, c'est un modèle qui peut être imité. Ça peut même être un week-end en commun. Pourquoi ne pas chercher des amis noachides un peu partout et de leur faire participer à votre expérience et même d'avancer ensemble. Voilà, tout ça c'était donc pour comprendre ce que fait le Beit Din. Je reviens donc au sujet du départ. On passe de la situation de She'eno Metsuvevose, celui qui accomplit sans en avoir reçu l'ordre, à la condition de Metsuvevose, celui qui reçoit le comportement en tant que mitzvah. Voilà, ça c'était, disons, une première introduction. J'ai été un peu rapide. Je suppose qu'il y a des questions.
Oui,
Raph. Oui, allez-y.
Tout à l'heure, vous avez évoqué le commandement de Teshuva.
Oui.
Il se trouve, sauf erreur de ma part, que ce n'est pas un commandement qui concerne, en tout cas qui fait partie des sept lois noaïdes.
Oui.
Dans ce cas-là, si c'est le cas, comment un noaïde se repentit ?
Les sept commandements noaïdes sont la structure fondamentale. C'est comme, si vous voulez, les arêtes d'un poisson. Mais les arêtes d'un poisson, ce n'est pas un poisson. Et également de la chair. Et c'est vrai que la teshuva n'est pas un commandement, mais elle est une réalité. De même que vous n'avez pas de commandement de boire de l'eau, mais je pense que vous le faites quand même. Eh bien, le fait d'avoir reçu un commandement implique de manière intrinsèque l'idée de teshuva. Imaginez par exemple quelqu'un qui vole. Alors on lui dit, mais tu sais que c'est interdit de voler? Il dit, oui, je sais bien que c'est interdit. Alors pourquoi tu continues? Ah, ben parce qu'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de commandement de faire tes chouvas. Vous comprenez l'absurde de la chose. Si la Torah interdit de voler, ça veut dire qu'il faut arrêter de voler quand on vole. Et qu'il faut également regretter de l'avoir fait et décider de ne plus le faire. Et bien justement, ce mouvement-là, regretter d'avoir fait, arrêter de faire et accepter de ne plus le faire, c'est exactement ça qu'on appelle la teshuvah. C'est intrinsèque dans la mitzvah elle-même. Et de plus, je dirais plus loin que cela. La teshuvah ne commence pas par l'homme. La teshuvah est un mouvement de retour universel. C'est-à-dire, le fait même que le monde ait été créé, vous savez ce que ça veut dire être créé? Être créé, si on réfléchit très sérieusement, ça veut dire être mis en dehors. D'ailleurs, le mot bara, qui veut dire création en hébreu, est à rapprocher du verbe araméen bara, qui veut dire à l'extérieur. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai été créé, ça veut dire qu'on m'a jeté dehors. Et d'ailleurs, c'est le sens du mot exister en français, ex, ist, dehors, être. Et quand j'ai conscience qu'on m'a mis dehors, ce que ça entraîne automatiquement chez moi, c'est le désir du retour. Je veux rentrer. Je veux rentrer à la maison. Et donc, quand on parle de teshuvah, la teshuvah, en fait, c'est le retour de l'univers tout entier, du cosmos. La création tout entière fait teshuvah. Et même les hommes font teshuvah. Et même les hommes qui ont péché font teshuvah. C'est-à-dire, la teshuvah ne demande pas le péché. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, on pourrait dire que on pourrait se tromper, on pourrait penser que le péché est indispensable pour qu'on puisse faire teshuvah. Mais en vérité, c'est le contraire. C'est même celui qui a péché, donc il s'est éloigné encore plus, lui aussi peut revenir. Donc la teshuvah fait partie, on pourrait dire, presque de la respiration naturelle des âmes. Donc la teshuvah, ça fonctionne, même si c'est pas un des sept commandements de la Torah. D'accord? Allez-y.
N'y a-t-il pas quelques problèmes concernant l'accomplissement de la loi noire, par exemple du point de vue de la certitude de la justice des tribunaux? Qui ne sont pas les tribunaux noirs, voilà, qui sont les tribunaux de nations.
Si j'ai compris, votre question concerne le septième commandement, celui d'avoir des tribunaux.
Ou par exemple aussi, comment savons-nous que la viande des animaux qui ont été sacrifiés dans n'importe quel abattoir accomplit cette loi noire?
Bon, je vais d'abord répondre à votre première question et après citer la deuxième. La question est très importante. Il y a des tribunaux. Un des sept commandements noahides, c'est d'avoir des tribunaux. Alors évidemment, vous n'allez pas fonder un tribunal. Vous n'allez pas condamner quelqu'un qui a transgressé les lois noahides, par exemple. Alors comment allez-vous faire? Ça veut dire que quand cette loi des tribunaux concerne en fait la société, pas vous en tant qu'individu. En tant qu'individu, vous êtes contraint par la loi du pays. Et même si cette loi est contraire aux lois noahides, et effectivement aujourd'hui, en Europe, beaucoup des lois en vigueur sont contraires à la loi noahide, je parle par exemple du mariage pour tous, par exemple, qui est absolument contraire à la loi noahide, mais le jour où vous allez fonder, vous, un État, ou que vous serez responsable de l'État et de la législation, alors vous aurez le devoir d'accomplir ce commandement. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'y êtes pas encore, à moins que vous trouviez une île déserte sur laquelle vous allez fonder votre état noahide. Maintenant, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il en est des aliments, la viande que l'on consomme, est-ce qu'elle est conforme à l'interdit de la chair vivante, n'est-ce pas? Et il y a une interdiction qui est d'arracher un morceau de chair vivante et de le consommer. Ceci est interdit. Qu'en est-il dans les abattoirs? Cette question vous a été posée justement par des béné noirs du Texas. Parce que aux États-Unis, il y a, je ne sais pas, vous avez lu Tintin en Amérique, certainement. Non, vous n'avez pas lu Tintin en Amérique? Ah, ça fait partie de la culture fondamentale. Est-ce qu'on peut être noahide sans avoir lu Tintin? Il y a des usines à viande où sur tapis roulant passent des animaux vivants qui ressortent sous forme de saucisses. Le problème, c'est que, bon, ils sont mis à mort, effectivement, dans le courant du trajet, mais parfois, excusez-moi les détails horribles, la mort n'est pas immédiate. Et pourtant, la chair est arrachée. Alors, il y a eu des cas comme ça, et donc des Bénins Noirs du Texas nous ont demandé est-ce qu'ils avaient le droit de manger des produits de cette usine. Et il y a eu un débat entre plusieurs rabbins à Jérusalem autour de ce problème. Et nous sommes arrivés à la conclusion que, pour des tas de considérations de doute, par exemple, le fait qu'on ne sait pas si tel morceau de boîte à conserve acheté fait partie de ce problème ou pas, alors on va selon la majorité, donc c'est autorisé. Cependant, nous avons recommandé à nos amis noirs de publier une protestation, ce qui est une sanctification du nom de Dieu quand on fait des choses pareilles, quand on dit « Nous autres, les noirs, nous exigeons que dans tel abattoir, on ait un comportement humain envers les bêtes. » On peut être également végétarien, pas de problème. Il y a également un autre problème qui a été soulevé entre les rabbins. J'en ai discuté la semaine dernière avec le rabbin de Genève, le Rav Schlesinger, à propos de l'abattage musulman, le halal. Est-ce qu'il correspond ou pas aux exigences de cette loi? D'après certains de nos sages dans le Talmud, l'abattage de cette manière, l'abattage par la voie du couteau, rend impropre à la consommation pour les noahides les entrailles, c'est-à-dire les parties du tube digestif. Mais la plupart des rabbins ne relèvent pas cette interdiction. Enfin, il est toujours bon de se poser des questions. Vous savez, quand un juif a une question sur son poulet, s'il est cachère ou pas, il prend le poulet et il va voir le rabbin. Et le rabbin regarde si l'aile elle est comme ça, si la patte elle est comme ça. Alors, on peut également imaginer ce genre de scène chez les noahides.
Est-ce que Noé, en sortant de l'arche, comme il a reçu le septième commandement, est-ce qu'il a reçu en même temps des lois concernant l'abattage?
C'est-à-dire qu'il y a des lois concernant l'abattage, justement, c'est de ne pas consommer la chair vivante. Maintenant, ce que Noé a fait en sortant de l'arche, il a fait des sacrifices. Il a fait des sacrifices qui ont été présentés sur un autel et qui ont amené la paix dans le monde. Mais les lois de l'abattage sont transmises dans la tradition juive et non pas dans la loi noahide. Simplement, nous avons, chez nos amis des Philippines, la question a été posée, qu'est-ce qu'ils doivent dire comme bénédiction au moment de l'abattage? Parce qu'ils s'efforcent de faire l'abattage à la manière des Juifs. Alors, est-ce qu'ils ont une bénédiction à prononcer à ce moment-là ou pas? Et je leur ai recommandé de lire au moment de l'abattage le verset de la Bible qui interdit justement la chair vivante. De même, il y a un problème pour les huîtres. Vous savez, les huîtres ou bien le homard. Le homard, il est consommé. Voilà, j'espère que je ne vais pas faire trop peur. le homard est cuit vivant, ce qui pose des problèmes. Je ne dis pas forcément que c'est interdit, mais enfin, il est bon d'avoir une certaine sensibilité morale par rapport à ces pauvres bêtes.
Oui. Par rapport à Shabbat,
oui.
Quand je me suis intéressée un petit peu à tout ça, on m'a dit que c'était un signe spécifiquement juif, de l'identité juive. Oui. Moi, en tant que noire, je ne voudrais pas toucher à ça, oui. À l'identité juive. Par contre, j'aime le vendredi soir à nous. Oui. Est-ce que je peux faire, c'est-à-dire m'approprier entre guillemets des choses qui sont inspirées du judaïsme et pas observer dans le sens de faire exactement, mais être dans l'esprit, c'est pas forcément l'esprit, mais dans le monde.
C'est-à-dire, vous voulez accomplir les mitzvot à la manière un peu comme des réformés?
Je
vous dire quelque chose. Ce que vous dites, votre intuition est très belle. Elle correspond à un enseignement du Maharal de Prague, 16e siècle à Prague, qui explique que le commandement du Shabbat a été donné à deux reprises dans les tables de la loi, dans les 10 commandements. Les 10 commandements sont cités deux fois dans la Torah. Une première fois, la section de Yitro, la deuxième fois dans la section de Vaetranan. Et à chaque fois, il y a une autre version des 10 commandements. Dans la première version des 10 commandements, la raison du Shabbat, c'est la création du monde. Et dans la deuxième version, la raison du Shabbat, c'est la sortie d'Égypte. la sortie de l'esclavage. Alors, si on considère la deuxième version, le Shabbat ne concerne qu'Israël. Il y a qu'Israël qui a été en esclavage. Et si on considère la première version, eh bien, le monde entier a été créé. Donc, ça concerne le monde entier. Mais il y a une petite différence. C'est que dans le livre de Shemot, dans la première version, il est dit « Souviens-toi du jour du Shabbat, Zachor ». Tandis que dans la deuxième version, il écrit « Shabbat » et « Shabbat », c'est « Observe, préserve le Shabbat ». Et donc, ça veut dire que dans le Shabbat, il y a deux dimensions, une positive et une négative. La positive, c'est de se souvenir du Shabbat et de se souvenir que le monde a été créé. Et ça s'accomplit justement par l'allumage des bougies et le kiddush. Et préserver le Shabbat, c'est le commandement négatif de ne pas faire de travail ce jour-là. Et ça correspond spécifiquement à Israël. Donc votre intuition est juste. Zachor, le souvenir, ça concerne l'humanité tout entière. Et la préservation ne concerne Israël. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un non-juif ne peut pas, s'il a accepté déjà les sept commandements acquis, ne peut pas accomplir le Shabbat, même dans son intégralité, d'après Maïmonide en tout cas. Maintenant, si vous voulez vous inspirer du culte judaïque, pas de problème, ça ne s'appelle pas inventer une nouvelle religion. Ça veut dire s'inspirer du judaïsme, c'est tout à fait différent. Oui, allez-y, monsieur le ministre.
Il y a une question concernant le septième commandement d'établir les tribunaux. Dans la vie quotidienne, nous sommes appelés à agir, réagir, disons, pour faire quelque chose. On peut faire, par exemple, des choses de manière égoïste, mais on peut réagir, faire quelque chose selon un sens de justice. Est-ce que le septième commandement relève, donc il s'agit d'agir selon le sens de justice ou pas ? Ou bien ce sont deux commandements différents.
Écoutez, agir selon le sens de la justice, ça fait partie de l'amour de Dieu. Et Maïmonide, quand il amène les 613 commandements, dans les cinq premiers qu'il amène, il ne dit pas que ça concerne seulement les Juifs. Il dit la foi en Dieu, le refus de l'idolâtrie, l'unité de Dieu, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Ces cinq commandements sont des commandements permanents qui, d'après Maïmonide, tombent sous le sens. Et puis vient le sixième commandement, c'est de sanctifier le nom de Dieu, ça appartient à Israël. Mais les cinq premiers commandements relèvent de l'humanité tout entière. Or, ce que vous appelez le sens de la justice, je pense que vous parlez ici du devoir moral, c'est-à-dire l'idéal. Est-ce que l'on doit agir par intérêt ou par idéal? Le Talmud, qui est très réaliste, dit qu'il faut d'abord agir par intérêt. Parce que ce n'est que si on est capable d'agir par intérêt qu'on peut arriver finalement à agir par idéal. Mais si on cherche tout de suite à agir par idéal, sur le plan éducatif, c'est une catastrophe. Ça n'amènera à rien. Mais évidemment, les êtres d'exception, dont j'espère que vous faites partie, doivent agir également par amour de la justice et par l'amour de Dieu. D'ailleurs, si on parle déjà des tribunaux, je pense que rien n'empêche de faire une cour d'arbitrage noachide, qui arbitrerait les conflits entre personnes selon la loi noachide. Avez-vous d'autres questions? N'ayez pas peur, c'est une occasion.
Oui. Quelle est la position faite du Nogi par rapport à un fonctionnement de synagogue s'il en a la proximité?
Rien n'empêche un non-juif, même non-noaki d'ailleurs, d'entrer dans une synagogue et faire ses prières. Alors, dans le fonctionnement de la synagogue, alors vous avez le problème du minyan, où il faut 10 personnes pour faire la prière ensemble, 10 personnes juives. Mâle, âgé de plus de 13 ans. Donc, ça rentre pas dans la catégorie du Noachim. Simplement, nous avons des témoignages historiques que dans l'Antiquité, à l'époque romaine, dans toutes les synagogues de l'Empire romain, il y avait une place réservée pour les non-juifs, qui venaient écouter les enseignements des rabbins et prier avec les juifs. Donc, tout ça peut très bien se faire. Je recommande toujours, pour ceux qui sont intéressés, de faire une cérémonie propre aux Noachim eux-mêmes. Par exemple, une lecture de la Torah à leur manière. Ce n'est pas forcément avec le rouleau de parchemin qui coûte d'ailleurs très cher, mais ça peut très bien se faire avec une belle Bible, celle par exemple de l'édition Art Scroll, par exemple, telle que c'est fait aux États-Unis. Il y a également une recommandation d'un de mes amis qui m'a dit pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle Kabbalat Shabbat ensemble. La Kabbalat Shabbat, c'est l'entrée du Shabbat qui se fait avec des très beaux psaumes, avec souvent même de la musique. Ça peut se faire en commun entre juifs et non-juifs. Après la prière de Harvit qui vient par la suite, ça, chacun la fera à sa manière.